Vous écoutez France Culture.
Continent Science, Stéphane Delisgeorge.
J'ai toujours rêvé de connaître le futur, de voir comment le monde change, voir les progrès de l'humanité.
En ouverture de tous ces rendez-vous scientifiques tous les jours, à 14h, sur France Culture, toujours en direct de la Maison Ronde, de la Maison de la Radio, du studio 1061 Continent Science, bien sûr, bonjour à toutes, bonjour à tous. À notre sommaire aujourd'hui, eh bien, très lointain voyage dans le temps, très lointain voyage dans un certain type de température, comme nous allons le voir. Je reste un petit peu secret pour intriguer les auditeurs, mais en tout cas, avec un astrophysicien qui travaille en général sur la question de la formation et de l'évolution des grandes structures, ce que l'on appelle les grandes structures, soit les amas de galaxies, voire les galaxies, son nom est Hervé Dol. Mais tout de suite, bien sûr, la chronique animalière. Pour cette chronique animalière, aujourd'hui, je retiens un bivalve marin, un ancêtre mollusque incroyable, son nom, Artica islandica, vivant dans l'océan Atlantique Nord. Son nom vernaculaire est Cyprine en France et Quahog nordique au Canada. Quahog nordique, c'est difficile à prononcer. Précédemment considéré comme ayant environ 405 ans d'âge, ce mollusque bivalve, récolté en 2006 le long des côtes islandaises, a en fait vécu 100 ans de plus. Cela en fait-il le doyen des animaux, à tout le moins des animaux marins, des bivalves? Âgé, lui, donc, de 507 ans. Ce spécimen de Cyprine a été ramassé par l'équipe de Paul Butler de l'École des sciences océanographiques de l'Université de Bangor, en Écosse. Cet animal, si vous comptez bien, serait donc né en 1499. 1499, donc, du temps des exploits de Vasco de Gama, année même où le grand navigateur portugais a établi la première liaison entre Lisbonne et Calicut. Cela, bien sûr, en contournant l'Afrique. Lorsque les chercheurs ont ouvert sa coquille, notre bivalve, le tuant par la même occasion, ils ignoraient qu'ils étaient en présence d'un spécimen extrêmement vieux. Son âge avait donc, par la suite, été estimé, sur la base des stricte croissance, à environ 405 ans. Ce mollusque a été surnommé Ming, du nom de la dynastie qui régnait en Chine au moment de sa naissance. L'âge nouvellement établi de notre Artica islandica a été déterminé par plusieurs méthodes, notamment géochimiques, comme la datation au carbone 14. Et selon le biologiste Rob Whitbard, de l'Institut royal néerlandais de recherche océanographique qui étudie cette famille de mollusques depuis une trentaine d'années, cette détermination est tout à fait fiable. S'il devait y avoir une erreur, dit-il, elle ne porterait que sur 1 ou 2 ans. Les stries de croissance de notre bivalve sont visibles sur l'extérieur et l'intérieur de la coquille. Cette dernière est composée bien sûr de 2 valves calcaires maintenues ensemble par un ligament. C'est sur ce ligament de quelques millimètres de long, également orné de plus de 500 stries, qu'avait été portée la première datation en 2006. Elle a cette fois été établie sur les stries de la coquille extérieure, cette dernière constituant une surface plus large et donc plus aisément observable. Le profil des stries de croissance ne renseigne pas seulement les biologistes sur l'âge du mollusque, il constitue également un témoignage unique sur les conditions climatiques du passé. En effet, en examinant les différents isotopes de l'oxygène au sein des stries de croissance, les chercheurs peuvent déterminer la température de la mer au cours du temps où l'animal a vécu. Bref, ultime question. À quoi peut-on attribuer l'extrême longévité de ce mollusque? Selon Doris Abele, physiologiste animal et biologiste allemand, en Allemagne donc, cette invraisemblable longévité tient sans doute au très lent métabolisme de cet animal, à sa très faible consommation d'oxygène et peut-être aussi, bien sûr, à certains de ses gènes. En tout cas, en tout cas. Bienvenue à ce Cyprine, nouvel instrument tout à fait inattendu pour la climatologie. Bonjour Hervé Doll.
Bonjour Stéphane.
Alors vous voyez qu'il n'y a pas que vous hein, qui utilisez des traces, des signes très très indirects, hein, évidemment, et à évaluer. Hein. On va voir évidemment tous vos indices planqués que vous savez mettre
à jour.
Nos
traceurs très planqués, très cachés, oui.
Mais vous voyez que les bivalves hein, sont des auxiliaires, comme on parle, hein, de science auxiliaire, de la climatologie. Ben voilà que ces mammifères, ces petits bivalves, j'ai dit mammifères, oui, parce qu'on utilise aussi des éléphants de mer en regardant leur type de plongée, ainsi de suite, pour avoir des informations sur l'océan Arctique, et Antarctique plus exactement. Toujours pour la climatologie, qu'on va quitter d'ailleurs, on va aller voir une autre climatologie.
Une autre climatologie, un peu plus globale, si on peut dire.
Oui. Alors, vous êtes venu à ce même micro il y a quelque temps, juste après les premiers résultats de ce qui nous retient évidemment aujourd'hui, qui est le magnifique satellite Planck. Je dis magnifique par sa subtilité et donc les magnifiques résultats. Vous étiez venu comme invité au rendez-vous de Michel Alberganti pour la science en débat, hein, science publique.
Effectivement.
Voilà. Et vous aviez donné ça faisait quelques mois que vous aviez donné les
premiers
résultats.
Ça fait à peu près un an, voilà, de mémoire.
Et donc, évidemment, on va aujourd'hui rajouter quelques compléments d'ailleurs, mais revenir aussi aux résultats de ce satellite d'observation spatiale. Parce qu'on verra qu'on aura des petites indications aussi sur quelque chose qui vient du sol après,
oui,
hein, pour finir.
Hein. Exactement.
Et qui s'appelle BICEP 2. Bon, je ne sais pas si je vous dis astrophysicien ou je vous dis marathonien, parce que hier, au kilomètre 31, vous êtes passé devant la maison de la radio.
Oui, je tirais la langue hier, au kilomètre 31, devant la maison de Radio France. Alors, je suis astrophysicien, mais marathonien amateur. Voilà, donc j'ai réussi à finir, tant bien que mal. Et comme je disais, je préfère être maintenant, aujourd'hui, tranquille, au kilomètre 31, dans ce studio, que hier, en train de tirer la langue, sous une chaleur étouffante et avec des jambes qui faisaient atrocement douleur.
Et en disant, c'est là que je vais venir voir ces crétins, demain, dans mon effort.
Ah non, au contraire, c'était moi le crétin.
Bon. Et là, je vous trouve très en forme, pour finir. Voilà, après toutes ces considérations, donc, de déplacement et de course. De course difficile, hein, vraiment, le marathon, bravo, félicitations. Alors, vous avez spontanément tenu, lorsque je vous ai proposé ce rendez-vous, à commencer par inaugurer votre propos par un vieux paradoxe.
Exactement.
Un vieux paradoxe qu'on attribue à Olbers, hein, on dit c'est le paradoxe d'Olbers, qui est un astrophysicien ou un astronome du 19e siècle, ouais, et qui répond à cette question toujours pendante, pourquoi la nuit noire ?
Exactement. Pourquoi la nuit est-elle noire ? C'est une question que j'aime bien poser parce que d'abord tout le monde la comprend, y compris les enfants, des plus jeunes aux plus vieux. Elle a quelque chose d'extrêmement fondamental dans les réponses que l'on doit apporter, puisque la réponse à cette question nous fait toucher du doigt directement les conceptions mêmes de notre univers et invoque les concepts de la cosmologie la plus récente. Donc sous des détours très simples et très naïfs, en fait, c'est une question très profonde, comme souvent finalement pour les questions naïves. Alors, quand on pose cette question « Pourquoi la nuit est-elle noire ?», beaucoup de gens, parce que je me suis amusé à la poser très fréquemment, auprès de mes étudiants ou de mes amis, etc., de mes rencontres, et beaucoup de gens déjà sont un peu dans le déni sur le mode « bah c'est normal, enfin, la nuit est noire, il n'y a pas de question à se poser, c'est normal ». En fait, j'ai eu beaucoup ce genre de réponses. Un peu comme quand on lâche un objet, une pomme par terre, les gens se disent « bah oui, c'est normal ». Mais si vous regardez les jeunes enfants, quand j'étais à la crèche avec ma gamine, on se rend compte que les tout petits enfants, quand ils lâchent quelque chose, pour eux, c'est fascinant. Donc en fait, c'est eux qui ont cette curiosité qu'on a peut-être perdue, nous, dans notre quotidien. C'est eux qui démontrent que, quelque part, Newton est fascinant chaque jour, que la gravitation est fascinante.
Il démontre l'une des lois de Newton,
alors,
c'est
je
ne
sais pas s'il la démontre, mais en tout cas, il s'amuse beaucoup. Il nous casse un petit peu les oreilles parfois.
Effectivement, voilà, il découvre, pardon. Oui.
Alors la nuit noire, en fait, c'est un paradoxe, parce que les premiers qui ont fait, peut-être pas le calcul, parce qu'ils n'avaient pas forcément tout le formalisme et les connaissances pour le faire, mais ils avaient déjà esquissé ce problème, donc qui est devenu un paradoxe, c'est que si on compte toutes les étoiles qu'il y a dans l'univers, ou en tout cas celles qu'on imagine, parce qu'au 19e siècle, les moyens d'observation étaient relativement modestes par rapport à aujourd'hui, Si on compte toutes ces étoiles et qu'on calcule, disons, la luminosité qu'elles émettent oui. sur leur temps de vie...
On peut penser à notre galaxie, par exemple. On ne l'appelait pas comme ça, d'ailleurs, à l'époque. Bon, exactement. Mais ça a été résolu après, en étoiles. Bon. Mais notre
galaxie... si on calcule toute l'énergie, toute la lumière qui est émise par toutes ces étoiles, oui. avec des hypothèses relativement simples, qui aussi invoquent le contexte scientifique et même philosophique de l'époque, parce que la notion de début de l'univers n'existait pas vraiment. On avait l'impression d'un univers indéfini, permanent. Donc si vous prenez une étoile qui brille tout le temps, mettons à l'infini, une infinité de temps, et puis que vous en mettez des milliards et des milliards, il y a un moment où votre baignoire se remplit d'eau. C'est-à-dire que votre univers se remplit de lumière, et donc votre univers devrait être brillant, même la nuit. Alors c'était calculé un petit peu plus tard, fin 19e et au 20e, et effectivement, c'est un paradoxe. On attribue le nom d'Olbers, mais en fait, les premiers écrits datent du 16e siècle, sur le fait qu'avec toutes ces étoiles et maintenant toutes ces galaxies qu'on observe dans l'univers et qu'on peut extrapoler, comment se fait-il que la nuit soit noire alors que ces étoiles ont rayonné depuis des milliards d'années ?
Et oui, on devrait être tout à fait ébloui dans une luminosité immense.
D'une luminosité de l'ordre de celle du Soleil, par exemple.
Hervé Dolly, il y a une chose curieuse, parce que évidemment le grand Edmond Halley y a réfléchi, mais en 48, Alain Edgar Poe s'est posé la question, il a eu une intuition à peu près exacte.
Exactement, hein, 1848 je crois.
Oui, c'est 1848.
Exactement, Edgar Poe qui est donc un poète, a eu une intuition géniale, parce que c'est lui qui a donné en fait l'une des bonnes réponses qu'il ne pouvait pas prouver, parce que voilà, il n'était pas physicien. Mais il a indiqué qu'effectivement, si les objets n'ont pas une durée de vie finie, si les objets ont une durée de vie finie, eh bien la quantité de lumière qui sera dans notre univers sera diminuée d'autant, parce que s'il faut du temps pour naître et puis qu'ensuite les étoiles meurent, eh bien il n'y aura pas assez de lumière. Alors il faut un tout petit peu plus d'arguments que cela pour finalement prouver que la nuit est noire. Il faut 3 arguments, je peux peut-être les donner maintenant.
Allez, il y en a 2 qui ont été donnés par Kelvin, on a fait un peu d'histoire.
Voilà,
alors,
exactement, Lord Kelvin qui s'y est aussi attaché.
À cette question, oui.
Oui. Donc, le premier argument, c'est qu'il faut que la célérité de la lumière soit finie. Donc, il faut que la vitesse de la lumière soit finie.
C'est ça. 300 000 km à la seconde.
Voilà, alors ça, on le sait depuis le XVIIe siècle. Après, d'ailleurs, ça a été fait pas loin d'ici, à l'Observatoire de Paris, par rapport à les manips. Finitude de la vitesse de la lumière, ce qui engendre un certain délai. Le deuxième, c'est qu'il faut que les objets aient un âge fini. Donc, l'univers doit avoir un début, et surtout les étoiles. Là, on peut simplifier avec les étoiles. Et le troisième argument, qui là nous fait toucher du doigt ce que je disais au départ, une conception de l'univers extrêmement moderne, en tout cas dans la science moderne, parce qu'effectivement, en Antiquité ou dans le monde arabe, tout avait été déjà soit découvert, soit anticipé. Mais la science moderne ne l'a vraiment établi que très récemment, c'est l'expansion de l'univers.
Eh oui.
Il faut un univers en expansion, ça a été découvert de manière observationnelle par Edwin Hubble dans les années 1920, confirmé depuis et puis étendu. Mais donc vous prenez ces 3 ingrédients, finitude de la vitesse de la lumière, durée de vie des objets finis et expansion de l'univers, et vous réussissez à avoir des milliards et des milliards et des milliards de galaxies, d'étoiles, j'en passe, en fait beaucoup plus que ça, et vous arrivez à avoir quand même une nuit quasiment noire. Tout est dans le quasiment, on y reviendra peut-être après, mais disons au premier ordre, noire.
Troisième ingrédient, donc, beaucoup plus tardif, effectivement, cette découverte de l'expansion de l'univers observée avec le décalage vers le rouge, ainsi de suite, des travaux de celui d'ailleurs qui a résolu beaucoup de choses, hein, résolu au sens astrophysicien du terme. Hein,
exactement, exactement, il faut se souvenir de
nuages de je sais pas quoi, exactement. Et pof, pof. Et voilà que monsieur Hubble dit non, il y a des étoiles là-dedans.
Il y a des étoiles, souvenir, nous n'étions pas là, ni vous ni moi, mais dans les années, au début du 20e siècle, les physiciens, les astronomes en général, se demandaient ce qu'étaient ces masses de gaz, quelle était la taille de notre univers, est-ce que ces galaxies, donc on appelle maintenant des galaxies, qui sont des masses. Des grosses masses de matière noire d'abord, puis d'étoiles, de gaz et de poussière, qui sont donc à des milliers ou des millions, des milliards d'années-lumière de nous. À l'époque, les gens ne savaient pas s'ils étaient dans notre galaxie ou tout proche. Et c'est Hubble qui a vraiment mis un terme à ce débat de ces univers-I. Hein. Ces galaxies sont bien extra-galactiques, c'est-à-dire hors de notre galaxie. Et d'un coup d'un seul, au début du XXe siècle, la taille, disons, conceptuelle de notre univers s'est agrandi parce que notre galaxie n'était pas le bout du monde.
Et évidemment, Hervé Dolle de faire des grands gestes que personne ne voit avec ses bras devant le micro pour nous donner la taille suite donc de ce rendez-vous de Continent Science entièrement dévolu 1 au résultat du télescope spatial. Très froid, on va le dire, on va expliquer d'ailleurs, hein, l'utilisation de la cryogénie. Et évidemment, du fond de rayonnement fossile à 3 degrés K. Donc, indice magnifique de la possibilité et évidemment de l'existence du Big Bang. Alors, curieusement, on peut peut-être mettre ça comme pierre d'attente. Il a été décidé pratiquement dans la même année de la préparation du lancement de la fabrication puis du lancement de deux appareils, un américain et un autre plus franchement européen. Le nôtre européen, ça va être évidemment Planck, et l'autre c'est WMAP.
WMAP. WMAP pour Wilkinson Microwave Anisotropy Probe. Effectivement, on revient en 1996, époque de grande effervescence, comme tout le temps finalement, où les deux agences principales mondiales du spatial sélectionnent chacune de leur côté deux missions majeures pour mieux étudier ce rayonnement fossile, cette première lueur de l'univers dont on parlera tout à l'heure. Donc la NASA a décidé en 1996 de concevoir WMAP et les Européens de concevoir ce qui deviendra Planck. À l'époque, ça ne s'appelait pas Planck. Et là, il y a une différence d'approche absolument radicale qui est intéressante de noter. Les Américains voulaient faire une manip relativement bon marché parce que ça coûte très cher. Les Européens aussi. Donc les Américains ont choisi de faire une manip avec des technologies déjà existantes. Ça s'appelle des radiomètres, pas refroidis très, très bas, hein, une quarantaine de Kelvin à peu près. On peut faire ça avec un satellite qui refroidit passivement, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de mettre des frigos spéciaux. On fait une architecture thermique qui convient, on l'envoie à 4 fois la distance Terre-Lune et ça marche. Et effectivement, ils ont lancé en, je crois, 2000, quelque chose comme ça, et leurs résultats ont été publiés en 2001 et ont fait une vraie révolution dans notre conception de l'univers avec des résultats vraiment exceptionnels hein, qu'il faut indiquer.
Une belle carte en tout cas, avec cette forme ovale qu'on connaît.
Hein. Voilà, la plus belle carte du fond cosmologique à l'époque.
Une planisphère
de cette lueur initiale, oui. Et puis surtout un spectre de puissance qui est l'outil qu'on utilise, l'outil statistique, qui est de loin balayé toutes les observations des dizaines d'années précédentes. Les Européens, eux, ont choisi la voie difficile. Alors on a fait un peu notre Kennedy de l'époque, hein. On ne fait pas ça parce que c'est facile, on fait ça parce que c'est difficile. Les Européens ont choisi de développer des technologies complètement innovantes, mais qui nécessitait beaucoup plus de temps. Donc en 1996,
venir le froid.
On savait que Planck arriverait au moins 10 ans après WMAP, mais avec une sensibilité extrême. Et cette sensibilité, ça a un nom, ce sont des bolomètres, enfin les détecteurs ont un nom, ce sont des bolomètres, qui sont des petits morceaux de semi-conducteurs qui sont sensibles, très sensibles à la chaleur et donc à la lumière, mais qui ont un point de fonctionnement optimal à des températures cryogéniques, en l'occurrence pour Planck, à 0,1 Kelvin, donc 100 millikelvin. Donc il fallait, le défi était technologique, il était immense parce que aucun satellite n'avait jamais volé avec un réfrigérateur cryogénique à 0,1 Kelvin, d'une stabilité à mieux que le micro-Kelvin pendant 2 ans. Et à l'époque où ça a été accepté en 1996, le démonstrateur n'avait fonctionné que quelques heures. Et les ingénieurs et les chercheurs ont dit à l'Agence spatiale européenne et aux experts, voilà, on a réussi à faire fonctionner ça pendant quelques heures, je crois que c'était 2 jours. Voilà, dans 5 ans, on saura faire pendant 2 ans. Et ils ont dit banco, on y va.
Alors, j'ai lu, je ne sais pas si c'est sous votre plume ou sous la plume d'un autre astrophysicien, Vedol, que par comparaison, si on avait utilisé pendant 1000 ans le satellite américain, eh bien, on aurait eu les résultats qu'a obtenu Planck en 1 an.
Exactement, c'est pour illustrer le saut technologique et le pari technologique
gigantesque,
des Européens.
Gigantesque.
C'est gigantesque, parce que quand on fait des sauts technologiques, ce n'est pas pour gagner un facteur 2 ou 3. Et là, ça a vraiment bien marché. Effectivement, 1 an d'observation de Planck correspondent à l'équivalent de 1000 ans d'observation de WMAP, qui n'a fonctionné que 9-10 ans. Voilà, c'est là l'intérêt d'apporter sur le ciel, donc nous c'est dans l'espace, mais il y a aussi d'autres détecteurs qui sont faits au sol, on en parlera peut-être avec Bicep 2, parce que finalement c'est le même type de détecteur.
On en dira un mot.
De mettre sur le ciel, derrière des télescopes, des nouvelles technologies. Alors il y a un risque, mais le risque, il est souvent couronné de succès, et là on le voit, parce que les résultats de Planck, quelque part, achèvent les études du fond cosmologique sur la température. Évidemment, la polarisation, c'est une autre histoire, mais aucune autre manip ne fera mieux sur la température que Planck, parce qu'on est vraiment limité à la fois par le bruit de photons du rayonnement lui-même, et puis par notre capacité à soustraire les avant-plans. On en parlera peut-être tout à l'heure.
Oui, bien sûr.
Et là, on peut avoir une manip 100 fois plus sensible. Notre capacité à soustraire les avant-plans sera la même.
Alors, évidemment, à partir de maintenant, Hervé Dolle, petit rappel des faits. Tout d'abord, de montrer que la serendipity, comme disent les Anglais, la serendipity, la sérendipité, si on parle en bon français, ça existe. C'est-à-dire, d'un seul coup, une découverte absolument majeure. Celle-ci, alors, parmi les découvertes majeures, elle en est une majeure, qui est donc ce rayonnement cosmique. Deux ingénieurs des Tel Labs travaillent sur une antenne qui n'arrête pas tout le temps de faire le même bruit parasite. Et ils se rendent compte que eh bien, ça correspond à un rayonnement particulier qui est à 2 degrés K. Petit rappel, moins 272, c'est l'unité de mesure en Kelvin. Et là, en regardant, en mettant leur antenne dans toutes les directions, ils tombent tout le temps sur ce petit parasite exaspérant qui est à 2 degrés K, donc de température, ce qui indique évidemment une fréquence isotrope dans toutes les directions de l'univers et évidemment homogène, comme on va le voir. Il y avait un physicien théoricien qui avait prévu la chose un petit peu avant.
Hein. Exactement. Il y a Gamow, etc. Alors, l'histoire, là, on se trouve en 1964, effectivement, Penzias et Wilson au Bell Labs dans le New Jersey. Et avec leur antenne, ils mesurent un résidu en fait, à 3 Kelvin. En fait, température actuelle, qu'on mesure actuellement, c'est 2,726 Kelvin. Et ce rayonnement, ils ne le comprennent pas. Ils ont en fait le meilleur radiotélescope de l'époque. Parce qu'ils ont des détecteurs refroidis à l'hélium. Ils utilisent ce radiotélescope. En fait, les Bell Labs étaient intéressés à communiquer avec des satellites en orbite basse. En 1964, il faut se souvenir que l'humanité n'est entrée dans l'ère spatiale que depuis quelques années, hein, 1957. Donc il n'y avait pas de satellites géostationnaires, que des satellites en orbite basse. Donc il y avait une sorte de grosse antenne à cornet qui tournait. Et ils ne comprenaient pas ce rayonnement, comme vous le disiez. Et ils ont attendu quand même plusieurs mois, parce qu'ils se sont dit, c'est peut-être quelque chose dans le ciel, dans la galaxie. Donc on va attendre 6 mois que la Terre ait fait un demi-tour sur son orbite. Pareil, ils ont enlevé les fientes de pigeons. Enfin, on connaît tous l'histoire. Plein d'histoires rigolotes là-dessus, même des pièces de théâtre. Et en fait, ils sont allés voir leurs collègues, je crois, de Princeton, leurs collègues théoriciens, qui leur ont indiqué. Parce qu'eux ne comprenaient pas ce signal. Ils sont allés voir leurs collègues de Princeton, qui leur ont dit, voilà, vous trouvez le rayonnement cosmologique, preuve, s'il en est, du Big Bang Show. Et ces collègues théoriciens étaient en train de monter, ironie de l'histoire, une manip aussi pour essayer de le détecter. Et ils ont vu ces amateurs, entre guillemets, de Penzias et Wilson arriver avec le résultat majeur du XXe siècle, probablement. Il y en a d'autres, peut-être, l'accélération de l'expansion de l'univers, mais qui est la découverte de ce fond cosmologique. Donc cette lueur qui témoigne d'un univers très très chaud dans le passé. Et cette lumière baigne tout l'univers, comme vous le disiez, de manière homogène et isotrope.
Oui. Alors, toujours rappel des faits, évidemment. Et là, on va arriver à de la belle physique, maintenant, tout à fait étonnante même. Point singulier, hein, qui est ce qu'on appelle vite le Big Bang. Et puis, évidemment, très très rapidement, un phénomène d'inflation dont on aura à venir. C'est-à-dire, d'un seul coup, une expansion absolument considérable à partir donc de ce point particulier de densité extrême, de très très grande énergie, de très grande chaleur, bien évidemment. Et il faut attendre 380 000 ans pour que la situation change, puisque à l'issue de ce phénomène où l'inflation s'est produite, on est en plein, je ne vais pas dire noir complet, mais on est en plein plasma. Alors on va essayer de définir, hein. Plasma, c'est une situation très très particulière de la matière.
Exactement. Hein.
C'est quoi un plasma? En quelques mots.
Un plasma, vous pensez au soleil par exemple, c'est-à-dire, alors la définition de plasma, c'est un milieu relativement homogène, qui est chargé électriquement. Donc c'est tellement, ça peut être chaud. Les électrons et les protons, par exemple, sont séparés. Donc c'est un milieu qui, de loin, paraît neutre, mais à l'intérieur n'est pas neutre. Il y a des charges qui se baladent, il y a des courants, il y a tout un tas de choses. Et donc, quand le milieu est très très chaud, alors millions de degrés, c'est le cas au centre du Soleil actuellement, mais c'était le cas au début de l'univers, vous le soulignez, la période d'inflation est très très courte. Hein. Ça s'arrête quelque chose comme 10-30 secondes, mais après il y a une expansion qui continue. Mais l'énergie présente dans cet univers très dense et très chaud est considérable, et donc la matière ne peut pas résider, ne peut pas demeurer dans un état neutre. Les photons, la lumière est tellement énergétique qu'elle casse les vagues velléités d'électrons de s'apparier aux protons. Donc on est dans un univers opaque, comme au centre du Soleil, j'insiste lourdement, parce que opaque ne veut pas dire noir. Hein. Opaque, en l'occurrence, veut dire lumineux. Opaque veut simplement dire que la lumière ne se propage pas en ligne droite.
C'est ça.
Elle est constamment absorbée et diffusée. Nos auditeurs savent peut-être que la lumière qui est mise au centre du Soleil pour sortir, mais, alors je ne sais plus si c'est 1 ou 2 millions d'années, mais enfin c'est de l'ordre du million d'années, alors qu'il n'y a que quelques secondes de lumière à traverser. Parce que le milieu est tellement dense, et donc électriquement chargé, que la lumière est complètement absorbée et réémise. Et l'univers, dans les 380 000 ans à peu près, les premiers 380 000 ans, était comme ça. la lumière était constamment diffusée par les électrons, en vertu de la diffusion Thomson essentiellement. Donc c'est les électrons qui sont le plus efficaces, les protons aussi, mais ils sont 2000 fois plus lourds, donc ça ne joue pas vraiment. Mmh. Vous savez, en physique, on simplifie, hein, on ne s'embête pas. Donc c'est les électrons surtout qui jouent. Et donc il faut attendre cette période de recombinaison, à peu près à 380 000 ans, pour que, enfin, la température de l'univers baisse suffisamment, parce que cette expansion fait que la température globale diminue. C'est presque comme dans votre frigo de cuisine. Cette température diminuant, enfin, les photons n'ont plus assez d'énergie pour casser les paires protons-électrons. Et donc, enfin, en une période très très courte, que j'ai en redshift mais que j'ai pas en année, j'aurais dû réviser, mais on pourra trouver ça rapidement après coup, et ben la matière devient neutre, c'est-à-dire que un temps quasi immédiat, la matière devient neutre et les photons tout d'un coup ne voient plus d'électrons et ils peuvent enfin se propager en ligne droite.
Oui, c'est ça. Puisque le standard habituel, hein, c'est que, bien sûr, il y a des choses qui gravitent, les électrons gravitent autour de quelque chose qui est une particule lourde, hein, qui est un baryon. Et puis, quand il y a un saut, en particulier, un saut quantique, hein, évidemment, pof, un petit photon se dégage et vient constituer la lumière. Et là, donc, bah, fiat! Lux, d'une certaine manière. Et ça, c'est à 380 000 ans, ans que ce phénomène se produit.
Exactement. Et ça se produit à 3000 degrés Kelvin.
Voilà. C'est très chaud.
C'est très chaud. Mais si on fait le calcul, en fait, ce n'est pas assez chaud pour ioniser. Mais enfin, c'est du détail, parce qu'il y a beaucoup de photons.
Et puis, si on se reporte 13 milliards d'années plus tard, c'est très froid.
Et c'est très froid, oui, parce que l'expansion de l'univers joue. Voilà. En fait, c'est comme si votre baignoire augmente de taille. Hein. La baignoire étant notre univers. Notre univers est probablement infini, mais dans son expansion, bah, la densité d'énergie diminue. Et donc, ça diminue comme de manière linéaire avec le redshift. Le redshift, vous en parliez tout à l'heure, c'est l'effet Doppler cosmologique. On appelle ça le décalage vers le rouge cosmologique, une sorte d'effet Doppler. On n'a pas trouvé, en tout cas, on utilise souvent le terme anglais redshift, même si on aime bien parler français, redshift est quand même un condensé assez pratique. Et donc, ça diminue avec l'époque cosmique, donc avec le temps. Et aujourd'hui, on observe ce rayonnement à 2,726 Kelvin, donc très très proche du zéro absolu, d'où la difficulté de le mesurer, les complications extrêmes, parce que le moindre soleil, la moindre lune, la moindre atmosphère terrestre vous tue pour observer ce rayonnement. Même le moindre détecteur non optimisé rayonne lui-même et vous éblouit et vous ne pouvez pas le détecter simplement.
En tout cas, insistons même une seconde, mais sur le fait que c'est comme une pierre d'attente et comme aussi un marqueur formidable des grands invariants cosmologiques. C'est-à-dire que ça nous renseigne incroyablement. Retour au satellite Planck maintenant, et regardons cette carte. On a dit que c'était homogène. Je résume rapidement, et vous allez bien sûr détailler, Hervé Doll. Si donc homogène et isotrope, partout on regarde dans toutes les directions, il est toujours à la même température, toujours avec la même fréquence. Si on regarde beaucoup plus finement, on s'aperçoit qu'il n'est pas franchement homogène partout.
Exactement.
Et il y aurait des petits quelque chose là.
Des petits grumeaux. Alors, ce que je dis à mes étudiants, c'est que... Ouais. Parce que le rayonnement de ce fond cosmologique a une caractéristique physique, on appelle ça un corps noir. Bon, c'est juste que ça suit une loi établie par M. Planck. C'est pour ça que Planck s'appelle Planck, hein, le satellite, d'après M. Planck, le physicien allemand. Et donc, si on demande aux étudiants quel est le meilleur corps noir que vous puissiez voir dans l'univers, alors ce ne sont pas les étoiles, c'est vraiment le fond cosmologique qui a la courbe la plus parfaite par rapport à la courbe théorique du corps noir. Mais comme vous le soulignez justement, si on regarde très 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 finement, c'est-à-dire que si on zoome à une partie pour 100 000, donc on regarde à un millième de pourcent, si je ne fais pas d'erreur de calcul en direct, on t'a moins 6
c'est pas grave,
cas.
Ça vous sera pardonné.
Enfin, c'est 10-5, ça je suis sûr de ce chiffre-là. Si on fait un zoom de l'ordre de 10-5, on voit effectivement que ce fond a une granularité.
Ouais.
À différentes échelles angulaires. Donc il est surtout granulaire à l'échelle de 2 degrés à peu près, mais on voit des sortes de grosses vagues à quelques degrés et puis à plus petit jusqu'à quelques minutes d'arc. Et effectivement, ces grumeaux étaient prédits également. Ils ont été découverts la première fois par le satellite Kobe dans les années 90, ce qui a valu un prix Nobel au porteur de l'instrument, au concepteur de l'instrument. Alors évidemment, il les voyait moins bien que Planck. WMAP les a vus bien mieux et Planck enfin encore mieux. Et alors, en fait, ces grumeaux sont vraiment excitants parce qu'ils nous donnent à voir, alors voir à prendre entre guillemets, ce qui s'est passé avant la recombinaison, c'est-à-dire avant cette période des 380 millions, parce que leur répartition statistique et leurs propriétés encodent ce qui s'est passé juste avant, quand l'univers était opaque. Un peu comme si vous êtes sur une plage, alors c'est une image un peu bateau, hein, justement, mais si vous êtes sur une plage mer d'huile et puis que vous voyez une grosse vague arriver, vous dites, bon, j'ai pas vu ce qui s'est passé au large, mais il y a eu une tempête, par exemple. Alors, donc, vous n'avez pas vu la tempête, mais vous voyez la vague. Nous, le fait de voir ces grumeaux, on n'a pas vu ce qui s'est passé avant, ce n'est pas possible avec la lumière, vu que c'était opaque. Néanmoins, leur répartition nous indique sur les conditions physiques de l'univers tel qu'il était bien avant cette limite d'opacité ou de transparence. Et ces grumeaux sont probablement les prémices de la formation des structures, c'est-à-dire ce que deviendra les amas de galaxies et les galaxies. Donc on pense que ces grumeaux sont, pour être en termes un peu plus précis et techniques, sont en fait les oscillations du plasma à cette époque-là. C'est ça dont il s'agit. Un peu comme une étoile pulse, hein, on sait depuis une vingtaine d'années, une trentaine d'années que les étoiles pulsent, donc elles sont en vibration, parce que c'est un plasma. Et ben, l'univers, qui est un plasma, de manière naturelle, pulse aussi. Il pulse selon des modes propres, on appelle ça, c'est-à-dire que ces modes propres dépendent.
Ça ressemble beaucoup à des ondes acoustiques.
Hein. Ah bah ce sont des ondes acoustiques, oui, dans le plasma qui,
oui,
se balade.
C'est ça. Des ondes façon sonore. Oui,
donc absolument. C'est des ondes sonores, exactement. Oui. Alors si les auditeurs ne sont pas familiers avec ce concept, on peut imaginer que ce sont des bulles qui se propagent, oui, dans le plasma, mais seules certaines bulles se propagent parce qu'il faut qu'elles aient la bonne fréquence, il faut qu'elles aient les bonnes caractéristiques. A contrario, quand nous on étudie ces bulles, donc ces oscillations acoustiques, on arrive à remonter à un nombre de paramètres absolument incroyables et avoir la carte d'identité de l'univers de manière précise.
Alors avant que Dany Journaud nous propose une petite respiration pour que l'on arrive à digérer toutes ces informations que vous venez de nous donner, Riddle, est-ce qu'on peut dire d'une certaine manière aussi, là pour résumer, c'est que ça serait très embêtant si c'était resté uniforme tout le temps, et que ces quelques irrégularités, eh bien ma foi, pour constituer des objets distincts, formés avec, d'une certaine manière, qui sont pas un continuum, mais au contraire des parties délimitées, amas de galaxies, galaxies, étoiles, il faut bien quand même qu'il y ait à un moment une discrétisation du continu, là, pour faire un peu le cuistre. Hein. Il faut bien qu'apparaissent quand même des petites choses qui seront des indices de choses vraiment franchement séparées d'un fond continu.
Exactement. Il faut des seeds en anglais, donc des prémices, un ensemencement qui provient donc de l'inflation. Et ces petites bulles qu'on voit dans les oscillations acoustiques vont en fait apparaître ensuite comme des grumeaux sur lesquels la matière va se condenser et former ensuite des filaments très grands, puis des amas de galaxies et des galaxies. Tout ça, en fait, un petit peu en même temps. Voilà, c'est un peu le... Il n'y a pas de problème de l'œuf et la poule, tout se fait à peu près en même temps. C'est ça qui est rigolo et fascinant. Et vous disiez, s'il y a une seconde et demie, si c'était homogène, ça serait triste. Non seulement ça serait triste, mais il faudrait qu'on voit notre copie de fond en comble, parce qu'en fait, on n'a pas assez de... La physique aujourd'hui, telle qu'on la comprend, après, on peut toujours se poser la question, est-ce qu'on comprend bien les choses ? Si on avait un univers complètement homogène à l'époque de la recombinaison, eh ben on ne saurait vraiment pas pourquoi nous sommes là en termes d'amas de galaxies, de galaxies et d'étoiles, etc. Parce qu'en fait, on n'a pas assez de temps pour condenser. La gravitation seule n'aurait pas assez de temps pour accréter la matière pour former des galaxies et puis des étoiles. Donc en fait, il aurait fallu qu'on travaille beaucoup plus que maintenant pour essayer de résoudre ce paradoxe.
Thank you.
Eh bien voilà, outrepassé, après ces grains de clarinette, outrepassé le mi-temps de ce rendez-vous de Continent Science, toujours bien sûr en compagnie d'Hervé Dolle, à nous préoccuper et à regarder précisément quels sont ces lieux. Allez, jouons les savants, d'inhomogénéité, vous appelez ça évidemment de l'anisotropie. D'un seul coup, voilà que s'arrête l'isotropie qui ne nous arrange pas. Et donc, d'un seul coup, découplé, voilà la lumière qui peut bondir. Et là, les informations vont arriver et elles vont être très, très intéressantes et plus qu'intéressantes. Est-ce qu'on peut dire, comme premier résultat apporté là, qu'il va y avoir une modification, par exemple, de la chronologie? Par exemple, là, l'indication, c'est que 13,8 milliards d'années, soit 100 millions d'années de plus que les estimations précédentes apportées par Planck.
Effectivement. Planck a...
Pour aller vite, juste sur cette info.
Planck a révisé l'âge de l'univers.
Bon,
parce
merci
que,
pour lui.
Voilà, il a vieilli de 100 millions d'années à peu près. Parce que, tout simplement, nous avons une mesure beaucoup plus précise de ces anisotropies, que vous nommiez très justement. Et ces anisotropies, en fait, couplées à un modèle physique, parce que, pareil, on ne fait pas de la numérologie, on a vraiment une approche scientifique. Donc, on analyse les données dans le cadre d'un modèle cosmologique donné, ou de plusieurs modèles. Et comme les données sont bien meilleures et disons, couvrent un espace des paramètres plus grands, eh bien, alors je vais parler un peu technique, les dégénérescences et les incertitudes qu'il y avait dans les estimations précédentes de WMAP sont levées avec la qualité des données de Planck, et notamment dans ce fameux spectre de puissance qui est une analyse statistique des fluctuations du fond cosmologique, de ces anisotropies. On arrive à recaler l'âge de l'univers à 13,8 milliards d'années. Alors, c'est pas que, oui, la mesure est plus précise parce qu'on a une précision sur cette mesure de l'ordre du pourcent. Ce qui, moi, me fascine toujours, parce que quand j'étais étudiant, il y a une vingtaine d'années, en DEA, ça s'appelait à l'époque, maintenant ça s'appelle Master 2, mes enseignants me disaient, oh là là, la constante de Hubble, en fait c'est l'âge de l'univers, c'est pareil,
oui,
juste un
oui.
petit inverse entre les deux. La constante de Hubble, ou l'âge de l'univers, on les connaît qu'à un facteur de près, et c'est très compliqué de mesurer, ce qui est vrai, mais maintenant on mesure ça avec une précision de l'ordre du pourcent. Donc il y a, même à l'échelle d'une demi-carrière,
ouais, considérable.
On arrive à toucher du doigt vraiment l'amélioration et de notre modèle cosmologique et grâce aux mesures. Et c'est fascinant.
Oui. Alors évidemment, maintenant, on arrive à ces questions qui sont très étranges. On ne va pas pouvoir les traiter toutes, on ne va pouvoir que les aborder. Mais en tout cas, parmi tous ces paramètres cosmologiques, et d'une certaine manière, avec ces ondes étranges, ces ondes acoustiques qui vous donnent beaucoup d'informations, voici que rentre dans la description, bien sûr, la matière ordinaire. Il en manque. Hein, pour quand on fait, entre guillemets, on fait le poids ou la pesée de l'univers, on se dit, il manque de la masse. Donc, arrive cette étrange matière sombre. Bon, la question des neutrinos, et puis bon, aussi, évidemment, cette énergie sombre qui, elle, serait un des moteurs expansifs très, très étrange. Alors, j'ai envie de savoir, dans ce processus d'inflation, qu'est-ce que c'est que cette matière sombre? Parce que c'est quand même très, très étrange. On n'a pas, évidemment, d'observation directe
en
de
effet.
Cette matière. Reste-t-elle absolument hypothétique? En deux mots, qu'est-ce qu'elle peut être? Première caractéristique, est-ce qu'elle a comme propriété quand même d'être une puissance gravitationnelle?
Alors, effectivement, la matière noire, telle ou matière sombre, on dit dark matter en anglais,
oui.
On peut dire matière noire ou matière sombre, moi je vais utiliser matière noire pour simplifier, elle a effectivement une seule propriété, c'est qu'elle gravite, c'est-à-dire qu'elle interagit par intégration gravitationnelle. Donc
bon.
Elle attire les baryons, elle attire la matière traditionnelle, en revanche elle ne rayonne pas, d'où le fait qu'on ne la voit pas.
Les baryons, donc, ce sont les composés des noyaux, hein, protons, neutrons.
Hein, la matière habituelle, voilà, traditionnelle.
Les lourds.
Et cette matière noire a été, disons, découverte, c'est un bien grand terme, mais disons, mise au goût du jour dans les années 1930, quand effectivement les astrophysiciens, notamment Zwicky, pesaient les amas de galaxies, parce qu'il suffit de mesurer la vitesse de rotation des galaxies, hein, c'est un peu comme un gaz. Et puis, ben, quand on voit la masse qu'il faut pour que ça tourne bien sans que ça explose, enfin sans que ça se dilate ou se dilue, et ben, il fallait une masse à peu près 5 fois plus grande que ce qu'on observait. Et progressivement, ces arguments se sont élaborés. Et la lumière du fond cosmologique nous donne un argument vraiment essentiel, qui est que si on n'introduit pas un paramètre que l'on interprète sous forme de matière noire, on n'arrive pas à interpréter les données de manière acceptable.
Et cohérente.
Donc là, il n'y a pas de problème de... Parce que souvent, les gens disent, oui, mais parce que vous mesurez mal les vitesses des galaxies, etc. Bon, enfin, toutes les mesures sont compliquées, mais dans la mesure du fond cosmologique, il suffit d'observer la variation, disons, la répartition statistique des anisotropies, et il est nécessaire de rajouter une force de rappel dans ces oscillations acoustiques qui impliquent la matière noire. Par ailleurs, c'est également ce que je dis à mes étudiants et ce que je vous disais tout à l'heure, sans matière noire, on n'arrive pas à expliquer comment les galaxies se forment entre la recombinaison et maintenant, parce que la matière baryonique n'est pas assez, disons, massive, n'est pas assez dense par elle-même pour s'effondrer et former ce qu'on observe aujourd'hui, les grandes structures. Donc il faut un ingrédient supplémentaire, et c'est cette matière noire qui, elle, se découple avant la recombinaison. Donc il y a plein d'arguments qui font que cette hypothèse, hein, j'insiste lourdement, c'est une hypothèse, a le bon goût d'être élégante, de bien fonctionner. Elle a juste le problème d'apporter un ingrédient qui nous est complètement inconnu. Donc il y a beaucoup de détracteurs, et c'est normal, enfin quelques détracteurs, c'est normal. Comme tout dans la physique, les inconnus, soit on rajoute effectivement une inconnue, soit on se dit bah, c'est la physique qu'on fait qui n'est pas bonne. Donc est-ce qu'il faut changer les lois de la gravité? Peut-être. Alors moi je ne suis pas théoricien, je ne pourrais pas vous dire. Mais en tout cas, c'est un mystère assez fascinant, et que pas seulement les astrophysiciens et les cosmologistes cherchent, également les physiciens des particules essaient de trouver en laboratoire et dans les souterrains par interaction avec d'autres atomes.
Autre perspective, et retour encore à votre carte donnée par donc Planck, Hervé Doll. À un moment, et c'est d'ailleurs votre objet de travail à vous, il y a comment filigrane, c'est pas le bon mot, il y a en tout cas révélé par cette carte ce qu'on peut résumer, c'est le terme que vous utilisez, des filaments de matière.
Oui.
Filaments de matière.
Filaments.
Alors, est-ce que ce sont les prémices? Est-ce que c'est quelque chose d'abord de description? De quand datent-ils? De quoi sont-ils composés? Et est-ce que ce sont les prémices de ce qui va, bien sûr, après s'appeler ce que vous appelez, vous, les grandes structures?
Exactement.
Amas de galaxies, galaxies, étoiles. Voilà. Il faudra qu'on regarde, évidemment, dans quel sens ça s'organise.
Alors, ce sont les gens qui font des simulations numériques qui nous ont un peu démontré ça. C'est qu'en mettant dans un ordinateur toutes les forces que l'on connaît, les conditions initiales qu'on connaît, ils se sont rendus compte que la matière ne formait pas directement des boules. On peut imaginer que la gravité forme des paquets de boules et puis des galaxies directement. Non, en fait, la matière se met sous forme d'énormes filaments, donc très très tôt dans l'univers, hein, des redshifts au-delà de 20, donc c'est quelques centaines de milliers d'années après la recombinaison. Cette matière s'accrète, hein, parce que vous savez que la gravitation a pour principe d'attirer la matière. Donc dès que vous avez une toute petite surdensité, eh ben, elle a tendance à croître si les conditions sont là. On ne va pas rentrer dans le détail. Et ces petites surdensités, on les voit dans le fond cosmologique. Donc on sait qu'il y a des petites surdensités et des petites sous-densités. Pas bien grosses, hein, 10-5. Mais ça suffit pour ensemencer le processus, pour démarrer le processus. Et ces petites surdensités commencent à croître tout doucement. Et elles ne croissent pas de manière un peu comme un brouillard. Assez rapidement, elles se mettent sous forme de filaments. Et les gens à qui on montre les images des simulations numériques pensent parfois à des neurones, à des réseaux de neurones. Si on ne donne pas l'échelle, alors sauf que l'échelle c'est 200 mégaparsecs, donc c'est très grand.
C'est très grand.
Si on ne met pas l'échelle sur l'image, les gens pensent à un réseau filamentaire de neurones. Alors peut-être que nos auditeurs visualisent ça, mais ça ressemble effectivement à une sorte de... Alors ce n'est pas d'étoile d'araignée, mais c'est vraiment un réseau tridimensionnel. Et c'est au cœur de ce réseau de matière noire et de matière baryonique, donc de gaz, d'hydrogène, etc.
De matière ordinaire.
La matière ordinaire, que vont se former, donc au gros des nœuds, pense-t-on, les amas de galaxies, et puis le long des filaments, les galaxies traditionnelles. Et puis tout cela va suivre une évolution différente, selon que vous êtes très massif, pas massif, moyen massif, etc. Vous allez évoluer plus vite ou moins vite, donc des galaxies vont devenir très très massives très tôt dans l'univers. On les observe déjà, on observe des galaxies à des redshifts de 3 à 8, qui sont très massives et qu'on n'arrive pas à expliquer par l'agrégation hiérarchique de la matière, qui était le modèle un peu qui prévalait il y a quelques dizaines d'années. Donc selon l'environnement, maintenant c'est assez clair que selon l'environnement, c'est-à-dire si vous êtes très dense, si vous êtes né dans un environnement très dense ou moins dense, vous ne grossirez pas aussi vite dans un cas ou dans l'autre. Mais ce n'est pas grave, on a l'impression de comprendre ce schéma. Et ce qui est fascinant, j'utilise beaucoup le mot fascinant, mais c'est vraiment mon état d'esprit, c'est que le fond cosmologique permet de révéler en partie ça. Parce que le fond cosmologique agit comme une lumière d'arrière-plan sur les structures qui se forment devant nous, qui se forment depuis le fond cosmologique.
C'est ça. Et qui sont plus récentes.
Et qui sont plus récentes que le relâchement de ce fond cosmologique. A contrario, le fond cosmologique encode aussi, lui, ce qui s'est passé au moment de l'inflation, parce que les petites perturbations, les petites fluctuations qu'on observe sont en grande partie, encodent des propriétés qui sont dues à l'inflation. Donc si on est optimiste, on peut dire la chose suivante. Observe le fond cosmologique et je te dirai tout sur l'inflation, c'est-à-dire ce qui s'est passé au tout début, et la formation des structures, c'est-à-dire ce qui s'est passé après. Si on est pessimiste, de toute façon, l'inflation, c'est très compliqué et le fond cosmologique est quand même une mesure très difficile. Donc, c'est très difficile de découpler les deux. Et puis, les avant-plans, enfin, c'est-à-dire ce qui s'est passé après, proche de nous, c'est la physique non linéaire, on n'y comprend pas grand-chose. Et donc, tout décorréler et tout essayer de tout résoudre d'un coup, on ne va pas y arriver. Donc, en fait, la réalité scientifique est qu'on est un petit peu entre les deux. On arrive à avoir des contraintes assez formidables sur chacun des deux aspects. Mmh. On pourrait faire mieux, on est encore limité, mais voilà, la science progresse à petits pas.
Alors, autre manière de poser peut-être d'une certaine façon la même question, Hervé Neul, évidemment... On a posé, donc, et vous avez expliqué ces filaments de matière et vous avez expliqué ce qu'ils finissent par produire. Mais lorsqu'on parle de galaxies, évidemment, les galaxies, ça a des sous-parties, c'est composé d'étoiles.
C'est composé alors surtout de matière noire qu'on ne voit pas, on l'a évoqué, mais c'est ce qui gère c'est ce qui maintient la dynamique de la galaxie. Des étoiles, évidemment.
Arrêtons-nous aux étoiles, un instant. Parce que la question se pose, c'est très tôt dans l'univers. Donc évidemment, il faut attendre beaucoup plus longtemps pour que des éléments beaucoup plus lourds en particulier se soient donc synthétisés.
En fait, on se demande.
Et l'ingrédient là, de base, à ce moment-là de l'univers, le menu est un peu maigre. Hein. Hydrogène, hélium.
Il faut pas avoir un régime spécifique. Hein. Voilà. Si on n'aime ni l'hydrogène ni l'hélium, on n'a rien d'autre à manger.
Il n'y a pas grand-chose.
Et ça, c'est par contre, ça demeure un mystère.
Et ça fait des étoiles, ça?
Ça fait des étoiles. Il faut bien. Sinon, comme je vous disais, on ne comprend pas grand-chose, mais là, on comprendrait encore moins. Il faut des étoiles parce qu'on a quand même quelques preuves qu'il y a eu de l'émission très très tôt dans l'univers, donc à des redshifts au-delà de 10, donc quand même après la recombinaison, ça s'appelle la rayonisation. On ne sait pas trop comment ces premières étoiles se forment parce que l'hydrogène et l'hélium, qui sont donc les constituants principaux de la matière baryonique dans l'univers, sont présents évidemment dans les étoiles. Mais l'idéal, c'est d'avoir des éléments plus lourds, comme l'oxygène, le fer, etc., qui ne viendront que beaucoup plus tard dans l'histoire de l'univers. Parce qu'en rajoutant des métaux, on appelle ça, en rajoutant ces éléments, vous augmentez la capacité du gaz à se refroidir puisque vous avez plus de transitions atomiques. Pour refroidir. Alors c'est aussi un petit paradoxe, mais qui est bien compris. Pour former une étoile, il faut d'abord refroidir très, 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 très froid. C'est-à-dire qu'il faut que votre gaz se condense. Oui, c'est ça que les étudiants aussi ont parfois du mal à comprendre. Parce qu'une étoile, c'est chaud, on est tous d'accord. Mais avant d'être chaud,
ça brûle.
Ça a dû être très, 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 très froid, de l'ordre de quelques Kelvin. Alors, ça dépend des températures, c'est difficile à mesurer.
Moins 200 et quelques.
Moins 200, alors c'est 273 plus 10, voilà, de 163. Bien. Donc, il faut que votre gaz soit très, très, très froid pour pouvoir se condenser. Et c'est qu'après s'être condensé de manière très froide que là, ça peut se réchauffer et la gravité peut enfin jouer son rôle de
rassembleur.
Et donc, si vous n'avez que l'hydrogène et l'hélium pour refroidir, ça prend beaucoup plus de temps, c'est pas très efficace parce que vous avez seulement certaines transitions disponibles et ça demeure encore un mystère. Alors il y a plusieurs modèles qui existent, on va pas les citer, mais on se demande vraiment comment marchent les premières étoiles. Alors on sait qu'elles ont existé de fait, mais c'est encore un mystère.
Alors maintenant on en arrive, et ça va être notre propos terminal d'une certaine manière pour ce petit menu là, indiqué avec cette belle carte fournie par Planck, Hervé Neul. On voit que d'une certaine manière, et d'une manière certaine plus exactement, parmi les résultats apportés par Planck, il y a 200 super amas de galaxies, évidemment, découverts, ce qui est une forme de nouveauté. Ce qui est un peu un petit rappel, et j'utilise cet exemple pour vous servir de transition pour expliquer un autre fait, et qui montre l'extraordinaire subtilité, parce que quand on lit les espèces de malice permanente pour arriver à trouver des indices planqués derrière d'autres indices, bref, il y a, à côté de ce fond cosmologique qu'on voit partout, eh bien, un rayonnement de ces galaxies. Et ce rayonnement, il est d'une certaine manière plus jeune et il est en avant-plan. Donc il forme masque.
Exactement.
Pour que vous alliez essayer par-dessus lui ou à travers lui de regarder derrière, ce qui vous intéresse beaucoup.
À travers lui est malheureusement le terme, oui.
Oui.
Ah oui, ça s'appelle le fond extragalactique infrarouge, donc c'est un rayonnement de toutes les galaxies qui se sont formées depuis leur début.
Ça a été découvert relativement récemment, enfin dans l'histoire, c'est pas très très vieux.
C'est très très récent, c'est 96, ça a été d'ailleurs découvert dans mon laboratoire, l'Institut d'astrophysique spatiale à Orsay, dont j'ai la grande chance et l'honneur d'être directeur adjoint. Et c'était découvert par Jean-Luc Puget et son équipe. Et c'est un rayonnement qui était un peu prédit, mais dont on ignorait le niveau. En fait, c'est l'émission cumulée de toutes les galaxies, depuis toutes les époques. C'est un peu comme si vous regardiez, je vais donner une analogie, à partir d'un satellite, vous regardiez la Terre la nuit, donc vous voyez toutes les villes qui brillent. Et ben, c'est un peu comme si vous regardiez de très très loin, en fait, toute la pâleur de la lumière des villes qui vous témoigne de l'histoire des villes et de la lumière cumulée.
D'accord.
Alors, sauf que nous, ça nous donne une information autrement plus intéressante que la lumière des villes, qui nous gêne par ailleurs, c'est que ça nous donne une information précise sur comment les galaxies se sont formées. Alors, pas individuellement, pas de manière détaillée par époque, mais ça nous donne finalement le bilan total. Et vous savez que les physiciens partagent ça avec les financiers, c'est qu'ils aiment bien avoir un bilan précis, net et quantifié. Alors, pas pour les mêmes raisons. Nous, on aime bien voir le bilan énergétique des processus physiques dans l'univers. Et la mesure de ce rayonnement extragalactique nous permet enfin d'avoir le bilan de ce qui s'est passé dans ces fichues galaxies. Pardon d'être...
Si vous me permettez, je fais juste une petite incise, Hervé Nol, puisque vous avez parlé de financiers. Petit rappel, là encore, pour découvrir toutes ces beautés et pour savoir quel est l'investissement pour chacun des Européens pour faire, par exemple, des merveilles comme Planck, allez, on va dire, la fourchette varie, mais 3 euros par an, par citoyen européen, alors, ça coûte... Que dalle.
Ça coûte que dalle. Ça coûte 7 centimes par Européen par an pendant 15 ans. Le budget total, c'est 1 euro par Européen. Voilà. Donc, c'est effectivement, ça coûte pas grand-chose.
Voilà, fermons la parenthèse du financier. Donc, ça coûte rien pour savoir comment ont été formées les galaxies et les étoiles qui les composent. Retour donc à notre rayonnement galactique.
Extragalactique.
Oui.
Et donc, ce rayonnement, en fait, nous donne le budget total disponible pour la formation des galaxies. Et ce qu'a révélé Planck, c'est qu'on a mesuré ce rayonnement avec un raffinement extrême. On l'avait mesuré un peu avant avec d'autres expériences spatiales, notamment. Et ce raffinement nous ouvre des perspectives qui commencent à être ouvertes, d'ailleurs, assez emblématiques et assez impressionnantes. Avant de parler des perspectives, je m'arrête sur ce que vous disiez sur l'aspect masquage. Il ne faut pas oublier qu'effectivement, que quand on observe, quel que soit le degré de sensibilité de votre satellite ou de votre télescope au sol, toutes ces lumières s'accumulent devant vous. Il n'y a pas un photon qui vous dit « Coucou, moi je viens du fond cosmologique, coucou, moi je viens du fond infrarouge, coucou, moi je viens d'un amas de galaxies ». C'est à nous de séparer les composantes, on appelle
discriminer.
Ça. Donc ça, c'est très difficile, on n'aura pas le temps de l'aborder. Mais ce rayonnement infrarouge, en fait, trace finalement la formation des étoiles dans l'univers. Et il est très fort dans l'infrarouge, d'où son nom. On ne s'y attendait pas forcément, parce que quand vous formez des étoiles, les étoiles jeunes se forment dans des cocons de poussière qui absorbent le rayonnement ultraviolet et rayonnent tout ça dans l'infrarouge. Donc ce rayonnement infrarouge était beaucoup plus intense que ce qu'on avait prévu. Et aujourd'hui, quand on corrèle ça, par exemple, aux cartes de matière noire que Planck a obtenues, on n'en a pas parlé aujourd'hui, mais Planck est aussi en mesure de déterminer des cartes de matière noire projetées. Quand on corrèle les deux de manière statistiquement extrêmement significative, voilà, là, je vais réussir. On arrive à une corrélation incroyablement forte qui nous dit, finalement, pour résumer, que c'est là où il y a beaucoup de matière noire qu'il y a eu beaucoup de formation d'étoiles. Autrement dit, c'est là où il y avait plein de matière que s'est passé l'essentiel de l'action dans l'univers relativement jeune.
Oui. On a juste une demi... Allez, c'est une véritable gageure, hein, mais 30 secondes. Les résultats de Biceps 2, hein, qui eux sont venus d'instruments installés en Antarctique. Petit complément, mais alors, Bicep, 30 secondes, d'un mot.
Biceps 2 est un télescope au sol fait par les Américains qui mesure la polarisation du fond cosmologique. On n'en a pas parlé, mais Planck va relâcher des résultats exceptionnels au mois d'octobre. Peut-être qu'on en reparlera. Et Biceps 2 a effectivement fait une mesure exceptionnelle des modes de polarisation de cette lumière du fond cosmologique qui sont une preuve directe de l'inflation. Alors la question, est-ce que c'est une vraie détection ou pas?
Oui.
Le débat est lancé et j'espère qu'on le clôturera avec Planck en octobre pour les résultats finaux de Planck.
Eh bien, nous voilà avec un prétexte d'émission pour la rentrée de cette année 2014, au mois d'octobre. Et en tout cas, c'est le terme de ce rendez-vous de Continent Science. Merci de votre attention et de votre fidélité. Aujourd'hui, aux manettes, Pierrick Monsigny, Daphné Abgral, Dany Journeau, Stéphane Delisgeorges, comme vous le savez, Continent Science et balado-diffusée. Si vous voulez nous réécouter n'importe où, n'importe quand, selon votre propre fantaisie et liberté, vous vous reportez au site internet franceculture.fr à notre émission Continent Science. Demain, à la même heure, vous retrouverez René Friedman pour les révolutions médicales. Quant à nous, bien sûr, Continent Science, même lieu, même heure, la semaine prochaine. Il me reste à vous souhaiter un très bel après-midi sur France Culture.